Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre 22e podcast dans lequel on parlera de Freezer, de Chevalier du Zodiac, de clandestins coréens et de leçons d'harmonie en DVD. Pour évoquer ce qui fait l'actu du cinéma asiatique ou pas en ce mois d'avril, nous accueillons Flavien. Salut Flavien.
Bonjour.
Sidi. Salut Sidi.
Salut.
Martin. Bonjour Martin.
Salut.
Jérémy. Bonjour Jérémy.
Salut.
Justin. Bonjour Justin.
Salut.
Nicolas. Comment vas-tu Nicolas ?
Salut, ça va.
Et Marc.
Bonjour.
Salut Marc. La femme de la plaque argentique. Voici le titre du film que Kurosawa tourne en France actuellement avec Taha Rahim et Olivier Gourmet. Marc, penses-tu, en tant que fan de Kurosawa, que les fantômes japonais soient exportables à Paris ?
Bien, apparemment oui, puisque il y a un article qui vient de paraître dans Libération sur justement une journée du tournage du film de Kurosawa, et qui laisse espérer que le film, pour l'instant, enfin en tout cas le tournage, se passe bien. Et ce qui est assez intéressant déjà, c'est que Kurosawa ait choisi la France pour tourner son film. C'est la deuxième fois après la Russie qu'il choisit de s'exporter dans un autre pays autre que le Japon pour tourner ses films, puisqu'il explique lui-même que au Japon, la production s'attache plus aux adaptations de manga ou de romans plutôt qu'à l'expression libre et des scénarios véritablement nouveaux. Donc les contribuables français vont payer pour un film de Kurosawa, ce qui est plutôt bien. Et au moins, on peut être sûr qu'il sera distribué en France, ce qui n'est pas le cas de tous ces films. Donc c'est déjà une bonne chose. Et je pense que ça peut bien le faire. Et notamment, enfin, le titre du film est déjà suffisamment assez sublime. Et il fait penser surtout on dirait presque le titre d'un roman de Breton dans les années 20, un titre un petit peu surréaliste. Donc c'est assez bien. Et je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Et ce qui était assez enthousiasmant dans l'article quand on le lisait, c'est qu'on voyait que les deux des acteurs principaux, en fait, il y en avait un, c'était l'acteur principal,
Taha Rahim,
qui apparemment a étudié Kurosawa à l'université. Donc à l'université, apparemment, on étudie Kurosawa maintenant. Et l'autre actrice qui a, je crois, un second rôle, qui, elle, a carrément écrit un mémoire sur Kurosawa. Donc, ce qui est assez bien, c'est que eux sont maintenant confrontés à leur sujet d'étude. Et ce qui peut bien se confronter au sujet du film, puisqu'apparemment, il y est question d'une relation entre maître et élève. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film... du coup, en fait, les véritables acteurs sont comme des élèves face au maître Kurosawa, alors qu'ils l'avaient déjà étudié auparavant à l'université. Et je pense que ça peut être une confrontation assez, assez intéressante. Et je pense qu'il y a suffisamment de matière pour que ce soit un très bon film. Et tourner en France, c'est une bonne chose.
Flavien, tu avais eu la chance de le rencontrer à Belfort, et c'était assez intéressant parce que justement c'était un festival qui permettait de mettre en exergue ces films avec d'autres films. Est-ce que tu as senti justement dans la manière dont il parlait de cinéma, déjà une accroche avec le cinéma français dans ses choix ou dans son discours ?
Alors, dans son discours, peut-être sur son dernier film qu'il a fait en Russie, Seven's Code. Parce que là, on disait on trouvait qu'il y avait peut-être des notes un petit peu de la nouvelle vague, un peu chez Godard ou Rivette, ces cinéastes-là. Mais donc, je ne suis pas étonné, voilà, que son prochain film se fasse ici. De toute façon, il l'avait annoncé. Et de ce qu'il me disait dans l'interview qu'on peut retrouver sur le site, c'était que justement, en fait, il voulait normalement faire une histoire de couple, parce qu'en fait je lui avais posé la question en fait sur les rôles féminins dans son cinéma. Ses derniers films ont des rôles féminins assez forts, donc je lui demandais si le prochain c'était normalement prévu, et qu'il disait que normalement c'était plus ou moins égal, mais qu'il quand même il préférait le personnage féminin. Donc du coup ça sera assez intéressant de voir le résultat et de voir ce que donnera ce prochain long métrage.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur Kurosawa? Bon, bah, très bien. Bah, comme Kyoji Kurosawa parlait de du blocage du, du cinéma japonais qui ne s'intéresse qu'aux adaptations de manga. Parlons maintenant d'une franchise qui ne cesse de renaître depuis les années 90-2000, puisque nous avons eu la chance, ou pas, on va vous en parler, de voir la bande-annonce du nouveau Dragon Ball Z, Fukatsu no Feu, avec le retour de Freezer. Est-ce que ces 30 secondes vous donnent envie de vous replonger dans l'univers de Toriyama? Jérémy?
Ça donne envie parce que justement, quand on est un fanboy de DBZ et qu'on a grandi avec la série et avec le manga, de voir Freezer revenir et puis
pour la deuxième fois,
ça fait toujours son petit effet. Voilà, on a envie de découvrir le fin mot de l'histoire. Quoi. Ça marche à tous les coups DBZ. Voilà, même si la qualité des films et surtout le dernier qui était assez médiocre. Mais là, il y a Toriyama qui a investi encore, comme d'hab.
Ouais, mais ça, justement, c'est un peu la justification, parce qu'on attendait Battle of Gods pour l'implication de Toriyama, le retour aux sources après Dragon Ball GT, les suites qu'il y a pu avoir. Et pourtant, le résultat était quand même assez anachronique et catastrophique.
Je me fais pas beaucoup d'illusions sur la qualité du film. Mais j'espère être surpris, mais en attendant, de revoir Freezer, c'est un peu la Madeleine. Voilà, on est content de revoir le perso, donc moi je suis assez pressé de voir le film.
Ce qui marche, ce qui donne aussi envie, c'est surtout le fait que ce soit de l'animation 2D, qu'ils n'aient pas fait un film d'animation 3D comme pour
Albator.
C'est une série dont on va parler après. Donc du coup, ça donne vraiment envie ces 30 secondes, même si ça fait beaucoup plus propre que dans les années 90, mais en tout cas, ça a l'air assez prometteur, même.
Non, c'est juste 30 secondes. Ça a l'air d'être plutôt bien rythmé et l'animation a l'air extrêmement fluide par rapport au Dragon Ball Z qu'on connaît. Mais c'est une bande-annonce, donc c'est pas dit que l'animation soit de la bonne qualité sur les rythmiques que vous aurez le film.
Il y a eu un beau succès du premier film, donc je pense qu'ils ont quand même pas mal un petit peu de moyens, quoi, donc je devrais le faire. Plus c'est en 3D, je crois qu'il passe en 3D au Japon, en salle. Donc c'est soigné esthétiquement, je pense qu'ils ont un peu soigné le truc. Quoi.
Bon, je crois que la transition est toute trouvée, on voulait en parler plus tard, mais nous allons maintenant parler, puisque ça a été évoqué, du reboot de la saga Saint Seiya, qu'on a eu la chance, ou pas, de nouveau, et là surtout ou pas, mais on va voir si on peut être un petit peu sympathique avec ces nouveaux Chevaliers du Zodiaque, la légende du Sanctuaire, qui est sorti le 25 février, et qui devrait pas tarder, logiquement, à arriver en DVD. Justin, c'est pas la peine de nous résumer la légende du Sanctuaire. Je pense que tout le monde la connaît. Mais qu'as-tu pensé donc de ce reboot de la franchise Saint Seiya?
Alors il y a deux manières de le prendre. Si on vient en tant que fan, puis vraiment voir une transcription cinématographique, on sera forcément déçu parce que les 12 maisons avec la bataille du Sanctuaire, donc en 1h30. Sans toute la base narrative qui a amené ce moment-là.
Ça résume à 12 pièces, en fait,
les 12 maisons. Les 12 maisons, oui. Et donc il n'y a pas toute la base narrative qui a amené ce moment-là dans l'anime. Ça va très très vite. On traverse même pas vraiment les 12 maisons dans le film. Il y a quelques grosses ellipses. On annonce 12 maisons, mais on n'en traverse pas 12, en tout cas, dans le film. Donc si on vient pour voir une adaptation, on sera déçu. Si on vient pour un simple divertissement, c'est à rigueur pour le visuel, quoi. Pour le visuel, il y a quelques fulgurances quand même, il y a des bonnes idées au niveau des attaques, les nouvelles armures aussi sont quand même plutôt bien faites. Il y a quelques petits éléments qui améliorent un peu par rapport à l'animé comme Seiyar, qui est un petit peu moins agaçant peut-être dans sa version cinéma que dans la série, ou Saori aussi. Et puis bon, il y a les fulgurances au niveau des attaques. Il y a un design assez rococo, assez impressionnant quand même au niveau des maisons, des armures. Donc bon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça peut faire un bon divertissement si on oublie la base, quoi.
Ouais, moi je te rejoins sur Seiya, qui est un peu plus... qui est un peu plus sympathique, on va dire, que dans le manga de Kurumada, qui a un peu plus de personnalité. Il est un peu déconneur, c'est un ado qui aime bien faire des blagues, qui tombe complètement à plat. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, sur Saori, c'est toujours la jeune femme en détresse qu'il faut sauver et qui n'a pas une grande personnalité. Et ça, c'est un peu décevant par rapport au fait de s'adresser à la jeunesse actuelle. d'avoir un personnage féminin qui est toujours aussi, aussi faible et qui justifie juste l'intrigue plutôt qu'exister par elle-même.
Elle avait pas mal de personnalité dans la série, Saori, quand même.
Elle était limite antipathique.
Ouais, mais lorsqu'elle prenait un peu de pouvoir, je trouve que ça devenait un personnage un peu plus complexe.
C'était au début, parce qu'après, dans le reste de la série, il faut juste la sauver, quoi. Il y a un danger.
Je suis d'accord avec ça, mais Seiya, au début, est un peu plus de personnalité. Il est très lissé au bout de quelques épisodes dans l'animé ou de quelques pages du manga. C'est-à-dire qu'il résiste un peu à Saori au début. Enfin, voilà, elle a ce caractère très autoritaire. Lui, il a un caractère un peu plus tranchant. Et finalement, tout est très lissé assez rapidement. Elle devient la princesse à sauver. Et lui, le proche chevalier qui est prêt à se sacrifier pour la sauver. Et ça s'arrête un peu.
Il me semble que dans la DS, quand même, par contre, là, elle devient vraiment. Enfin, leader charismatique, finalement. Elle reprend sa place de princesse guerrière, quoi, quelque chose. Quoi.
C'est une déesse de la guerre, quand même.
Exactement,
ça se ressent pas trop.
Elle porte son armure et puis elle va combattre Hadès, donc c'est pas rien, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est.
Et puis au niveau des personnages aussi, voilà, bon, si on s'est attaché aux personnages de la série, bon, là, c'est. C'est quand même assez expéditif, quoi. Il y a Iki, il vient faire coucou, et puis, il disparaît. Il n'y a aucune caractérisation, quand même. À part Seiya, du coup, c'est le seul qui a un minimum de pertes. Le reste, ils font que passer. Ou alors, c'est des clichés. Shiryu, c'est le combattant un peu autiste, qui n'enlève jamais son armure. Donc, bon, c'est après, là aussi. Et puis, au niveau des grands combats, si on avait le souvenir, quelques combats quand même légendaires de la série. Bon, il en reste peut-être un, serait le yoga avec le verso, serait peut-être le seul qui a un peu survécu. Le reste, c'est assez expéditif.
Moi, je pense qu'il faut justement pas comparer les deux et vraiment le prendre comme une espèce d'introduction pour vendre des jouets pour les adolescents ou les enfants d'aujourd'hui, qui marche plutôt bien sur ce côté un peu coloré, un petit peu
et ça festif, sera toujours mieux que la nouvelle série qu'ils ont, les nouveaux chevaliers du Zodiac, qui est catastrophique. Personne n'a jamais vu. Bon.
J'ai vu quelques extraits.
Gulli,
c'est moi, France.
C'est une horreur. Hein.
C'est du Gulli.
C'est surtout aberrant, c'est qu'une série comme Lost Canvas est vraiment très très bonne en termes de design, d'animation, d'histoire. Enfin, qui a relancé mon intérêt pour les cheveux isolés, qui a été perdu de plus belle lurette, qui a disparu en même temps que les boutons. Voilà, ils n'ont pas réussi à terminer la série, ils sont arrêtés en plein milieu.
C'est pour une question de droit, il me semble.
Oui,
ça a pu se poursuivre. Ouais.
Et puis, du coup, voilà, ils investissent dans une série hyper cheapos, mal écrite, des designs qui sont très faibles.
Alors, pour le coup, ce nouveau film a relancé une nouvelle franchise. Il me semble qu'il y a une nouvelle série de Saint Seiya qui est prévue pour cette année.
C'est des OEV, mais en fait, c'est qui tourne autour des Chevaliers d'Or. En fait c'est... C'est une histoire parallèle qui se déroule entre... donc je crois que c'est au milieu d'Hadès, c'est une histoire parallèle avec les Chevaliers d'Or. Voilà, c'est...
Donc on en reparlera, on fera un de ces jours, un spécial Chevalier du Zodiac, pour le coup, quand on aura fini de voir tous les épisodes des nouveaux Chevaliers du Zodiac sur Gulli. On tentera cela.